VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Abidjan, midi à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, nouveau quinquennat pour le président Alassane Ouattara depuis son investiture accélérée mardi. Dans son discours à la Nation, M. Ouattara a promis de construire une Côte d'Ivoire nouvelle, renforcer la réconciliation, mieux redistribuer les richesses nationales et aussi doter le pays d'une nouvelle constitution. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Abidjan Fernand Julien Gauze, président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire.
Le contraste est surtout frappant par rapport à la situation de 2010 où il y avait eu une double investiture de président et le président Alassane lui-même avait tenté une double investiture, une première par la voie du siège, une seconde dans les formes prescrites par la Constitution, solennellement et devant donc le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, on est à plusieurs années-lumière de cette situation catastrophique qui a fragilisé l'institution ivoirienne et donné de la Côte d'Ivoire une image malheureuse. Donc je pense que le fait que tout se soit déroulé en accéléré procède aussi du souci de tourner cette page, de passer à l'essentiel. Même si c'est vrai que l'investiture constitue, au terme de la Constitution, une étape importante, un symbole très fort.
Oui, il a promis une Côte d'Ivoire nouvelle. Qu'est-ce que vous attendez justement de son concept?
Ce que nous souhaitons voir dans ce chantier, c'est, comme je dis, un ensemble de valeurs qu'il faut ancrer dans la conscience des Ivoiriens, c'est-à-dire la stabilité politique, la paix sociale, la cohésion plus ou moins peaufinée entre les différentes tribus et les ethnies, et donc une vie publique qui était sans accroc et sans grand heurts. L'Ivoirien nouveau pour nous, c'est l'Ivoirien qui aspire véritablement à la paix et qui prend sa place en tant que terre de rencontre, terre de partage, terre de fraternité, terre de dialogue aussi.
Le président Ouattara veut changer la constitution. Est-ce que vous pensez que ça va être facile?
Alors, cela dépend de ce qu'on va changer dans cette constitution. On nous a dit qu'il y a quelques articles conflictuels dont il faut se débarrasser. Donc, il faudrait que la nouvelle constitution, si elle veut évacuer tout ce qui est conflictuel, ne soit pas elle-même votée dans la douleur et dans le conflit, dans le ressentiment ou dans la frustration. Il faut donc engager toutes les parties, toutes les composantes, pas seulement les composantes politiques, mais toutes les composantes de la nation, les forces vives, y compris bien sûr la société civile, et faire émerger le plus important, le plus essentiel, pour que demain la constitution ne soit pas encore une source de conflit et de fratricide.
Fernand Julien Gauze, membre éminent de la société civile en Côte d'Ivoire, joint à Abidjan. Bénin, à peine démarré, la nouvelle année scolaire a du mal à prendre forme dans le secteur public. Motif, les centrales syndicales ont lancé un mouvement de grève de 72 heures chaque semaine, scrupuleusement respecté par les enseignants. Reportage de la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Le ciel de l'école béninoise s'est assombri de gros nuages qui en ont statut du corps enseignant, révalorisation de la fonction enseignante, révalorisation salariale. Et dans cette bataille gouvernement-syndicat, ce sont les apprenants qui en payent le prix élevé.
On n'a pas fait tout, parce qu'on aurait appris que la grève continue toujours. Le professeur n'est pas encore là. C'est pas une situation normale.
Les classes sont vides, les élèves sont là, mais les profs ne sont pas là. Donc on attend pour voir. Ce n'est pas bien de commencer la rentrée scolaire avec une grève. On demande sincèrement au gouvernement de faire quelque chose, puisqu'on est là, on prépare notre avenir. Et ce n'est pas bien que les professeurs ou bien les syndicats mettent en jeu notre avenir.
Malgré les séances de négociation, les centrales syndicales restent imperturbables et refusent de se fier à ce gouvernement, espèrent quand il s'agit de faire des promesses, absents quand il faut les tenir.
Le constat que nous avons fait, c'est que le gouvernement entretient un certain flou.
Avant que la grève ne cesse définitivement, il y a deux préalables. La signature du décret portant statut des enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire. Deuxième chose, le relevé des conclusions que nous avons eues.
On s'est mis d'accord sur le paiement des 1,25 aux enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire, technique et professionnel. Premier point qui constitue une victoire pour les enseignants. On s'est mis d'accord sur la signature des statuts particuliers des enseignants de la maternelle et du primaire, puis de celui du secondaire, technique et professionnel. Le troisième point, nous avons dit qu'il s'agit d'engager les négociations avec les responsables des enseignants pour l'application progressive du contenu des statuts particuliers.
Le gouvernement demande du temps pour se mettre à jour et satisfaire les revendications, mais les centrales syndicales disent avoir épuisé le crédit patience emmagasiné.
Nous avons déjà fait preuve de notre patience. Nous espérons que le gouvernement va accélérer la procédure afin que, à la fin, d'ici à là, que nous puissions, d'ici à une semaine, connaître nos statuts particuliers. Sinon, nous ne serons plus responsables de rien et nous ne jurerons plus de rien.
Pour le moment, pendant que les apprenants du privé vont rigoureusement à l'école, ceux du public flagonnent en attendant que syndicats et gouvernement ne fument le calumet de la paix. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Burkina Faso, l'ex-ministre de la Communication Alain-Édouard Traoré, placé en détention hier à Ouagadougou pour malversation présumée. Le point avec Azuma Compaoré.
C'est le quatrième ministre du dernier gouvernement de Blaise Compaoré à être écroué. D'après Armand Ouedraogo, procureur de la Cour de justice, cette arrestation est liée à une affaire de corruption. Les députés du Parlement intérimaire ont voté à la mi-juillet la mise en accusation de 9 ministres, dont M. Traoré, pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Le Parlement lui reprochait de multiples violations des procédures de passation de marchés publics qui ont permis de détourner ou dissiper 100 millions de francs CFA à son seul profit.
En RCA, bras de fer entre le gouvernement de transition et le Parlement provisoire, d'où la manifestation des législateurs du CNT, le Conseil national de transition, aujourd'hui à Bangui, pour réclamer des forces armées centrafricaines opérationnelles d'ici une semaine. Des précisions avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Il s'agit véritablement d'un ultimatum lancé par le Conseil national de transition au gouvernement à l'issue d'une concertation des parlementaires ce mardi. Une semaine franche pour réarmer les forces armées centrafricaines et les redéployer aux côtés des forces internationales jugées inefficaces et passives devant les violences. Le Parlement provisoire qualifie de trahison l'immobilisme de l'exécutif qui, selon lui, n'a rien fait pour empêcher les violences qui ont embrasé le sud-ouest de la capitale, causant d'énormes dégâts humains et matériels. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action, affirme Alexandre Ferdinand Guendé, président du Parlement de la Transition. Dans son adresse à la Nation le lundi 2 novembre, la chef de l'État, Catherine Samba-Panza, a annoncé l'envoi des forces de défense nationale dans les zones en proie aux hostilités. Le Conseil national de transition veut donc s'assurer de l'effectivité de cette annonce et pour mettre plus de pression, les parlementaires ont décidé d'une marche ce mercredi. La marche qui débutera au siège du Parlement aura comme point de chute place des Nations Unies. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, reçoit ce mercredi à Moscou l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Objectif, essayer de progresser dans l'établissement d'un dialogue réel entre Damas et l'opposition syrienne. Moscou ne fait pas du maintien du président syrien Bachar al-Assad au pouvoir. Une question de principe, a répété mardi le ministère russe des Affaires étrangères, ce qui suggère une divergence de vue entre la Russie et l'Iran, qui soutient plus fermement le leader syrien, Chérubin Dorsil.
Déjà lundi, le chef des très influents gardiens de la révolution avait exprimé des doutes apparents sur le soutien inébranlable de la Russie envers Bachar al-Assad, estimant que Téhéran était probablement plus engagé que Moscou envers le leader syrien. Pour le général Mohammad Ali Jafari, il n'y a pas quelqu'un de mieux pour le remplacer. Mais un observateur averti de la région met en garde contre les conclusions hâtives sur ses déclarations publiques. Selon lui, la Russie et l'Iran sont d'accord sur la nécessité de garder M. Assad au pouvoir, tout en soulignant qu'il incombe au peuple syrien de décider de son sort. En revanche, les États-Unis et leurs alliés du Golfe, ainsi que la Turquie, insistent sur le départ de M. Assad comme préalable à un éventuel accord de paix. Vendredi à Vienne, au pourparlers multilatéraux sur la Syrie, il n'a pas été possible de s'entendre sur le sort de Bachar al-Assad.
Et pour terminer, la Chine confirme l'annonce par Taïwan d'une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue taïwanais Ma Ying-jeou ce week-end à Singapour, samedi pour plus précisément. Une première dans l'histoire de ces deux pays antagonistes depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.